الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة الرابعة عشر من شهر رجب من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو درسنا الرابع في قراءة هذه الرسالة المفيدة للغاية الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Nous sommes le 7 mars 2020 réunis pour le quatrième cours de l'étude de cet écrit intitulé « Les moyens utiles pour une vie heureuse ». Écrit par l'éminent savant Abdurrahman, fils de Nasser al-Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Les frères, est-ce que vous êtes en bonne santé? Si vous êtes en bonne santé, il faut vous rapprocher, il ne faut pas vous appuyer sur le mur. Barakallahu fikum. Ceci étant dit, chers frères, l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit « Faslun, wa min anfa'il asbabi li zawali al-qalaqi wal-humum, idha hasala ala al-abdi min al-nakabat, an yas'a fi takhfifiha, bi an yuqaddira aswa'a l'ihtimalat illati yantahi ilayha al-amr, wa yuwattina ala thalika nafsah, fa'idha fa'ala thalik, فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدر مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. Dans cette partie de son ouvrage, l'auteur rahimahullah nous donne encore une autre cause aidant à la dissipation de ses préoccupations, ses soucis qui viennent souiller la pureté de l'intérieur de la personne, à tel point que cette dernière est instable, désemparée, gênée. Elle ne peut donc pas goûter à la quiétude, au repos ou à l'apaisement. Il nous explique ici que parmi les causes les plus utiles pour dissiper les soucis, les préoccupations, les inquiétudes quand elles arrivent à l'homme, ce dernier doit faire en sorte constamment d'amoindrir, d'alléger ces difficultés. De quelle façon? Avant même d'entrer dans la façon qu'il cite, lorsqu'une difficulté est rencontrée par la personne, elle doit l'amoindrir, elle doit la réduire, elle doit l'alléger. Il nous explique comment y arriver. Il nous dit, et ceci se fait quand la personne, rencontrant un souci ou une difficulté, se met à l'esprit l'éventualité la plus difficile, c'est-à-dire la personne est face à un problème, il peut lui arriver quelque chose à cause de ce problème. Le croyant se dit, je dois m'imaginer à la pire des, je dois me préparer à la pire des éventualités. Une fois qu'il se prépare à la pire des éventualités, il s'attend à la pire des choses. Il se dit, il peut m'arriver la pire des choses. Une fois qu'il s'imagine cela, il dresse son âme et sa personne et il s'entraîne à affronter la chose la plus difficile. De telle sorte que si au final, ce qu'il rencontre comme difficulté n'est pas la pire des choses, eh bien lui, il était prêt à la pire des choses. Ça sera donc facile pour lui à supporter celle qui finalement n'est pas la pire des choses. Avez-vous compris ? À l'image d'une personne qui s'entraîne parce qu'elle va faire face à un ennemi redoutable. Elle s'imagine qu'il est extrêmement fort. Puisqu'elle s'imagine qu'il est extrêmement fort, elle se prépare et elle met tous les moyens afin de faire face à cet ennemi, n'est-ce pas ? Une fois qu'elle fait face à cet ennemi, elle se rend compte qu'il n'était pas aussi fort que cela. Étant donné qu'elle s'était préparée à plus fort que lui, elle va le vaincre. Les soucis dans la vie sont tes ennemis, car ils t'empêchent de te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils t'empêchent de goûter à la quiétude, au repos. Ils t'empêchent de te concentrer dans la prière. Alors tu dois, en rencontrant une situation difficile, t'imaginer la pire des situations et t'y préparer. T'y préparer. Puis une fois que tu t'y prépares, tu t'investis afin d'alléger au maximum cette difficulté, autant que tu peux. Si tu agis ainsi, le souci se transforme, il disparaît, il laisse place à la quiétude, l'inquiétude disparaît, la quiétude prend sa place, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'au final, tu te retrouves à passer ton temps dans ce qui t'est utile. Car toi, tu veux amoindrir le mal, augmenter le bien. Tu es donc occupé à chasser ce qui est mauvais et à attirer à ta personne ce qui est bon. Et ça te dissipe tes soucis. Ainsi, nous dit l'auteur, rahimahullah, quand les causes de la peur arrivent à la personne, ou les causes de la maladie, de la pauvreté, ou de la disparition des choses tant aimées par la personne, cette dernière doit recevoir, faire face et affronter cette épreuve avec quiétude et avec une âme qu'elle aura dressée. Elle s'est entraînée à cela. Ça, c'est extrêmement important parce que le musulman est éprouvé dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » Dans le sens du verset, les gens pensent-ils que nous les laisserons dire « Nous sommes croyants » sans les éprouver. « وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » Nous avons certes éprouvé avant eux ceux qui les précédèrent. « فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ » Ainsi Allah connaît les véridiques et connaît les menteurs. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi le croyant va faire face à des difficultés. Il ne doit pas être inattentif à cela, ou insouciant. Il doit se préparer dans sa vie constamment. Il doit s'imaginer faire face à la difficulté la plus grande. Il est donc sur ses gardes. Comme si quelqu'un voulait l'attaquer, il se dit à tout moment on peut m'attaquer. Il est sur ses gardes, il se prépare constamment. Si personne ne l'attaque, il ne s'est pas fait de mal en se préparant. Il s'est au contraire renforcé. S'il est finalement attaqué, il est prêt. Par contre, s'il ne se prépare pas, il est surpris. Et quand il est surpris, il est souvent vaincu. Il en est de même pour l'épreuve. Si la personne ne se prépare pas, ne se dit pas, il est possible qu'Allah Azza wa Jal m'éprouve, lorsque l'épreuve frappe la personne, elle est souvent vaincue. Donc le croyant ne doit pas être dans cette insouciance, consistant à oublier complètement que l'on peut être éprouvé à n'importe quel instant, que ce soit dans les biens, dans l'argent, dans la santé, dans la perte des proches, dans ce que l'on possède, dans ce que l'on aime. On doit constamment se dire, il est tout à fait possible que nous soyons éprouvés et s'y préparer, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, le salut, c'est-à-dire la préservation contre tout mal. On ne souhaite pas l'épreuve, mais on se prépare. Et on demande à Allah d'écarter de nous l'épreuve. Subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse de la pauvreté, de la maladie et de la disparition de tout ce que la personne aime. Lorsque la personne agit ainsi, elle arrive à amoindrir la douleur. Car la personne prête n'est pas comme celle qui ne l'est pas. Pour cette raison, lorsqu'une épreuve atteint deux personnes différentes, on voit la première dans une quiétude totale, murtah, complètement reposée et apaisée. On voit l'autre personne qui a exactement la même épreuve, qui réagit comme si la terre s'est ouverte et elle a été engloutie dedans, ou le ciel s'est effondré sur sa tête à elle seule. À cause de quoi ? De toutes ces choses dont on parle ici. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, nous dit que quand se réunissent en la personne le fait d'avoir dressé son âme à affronter la difficulté, ainsi que s'investir dans ce qui attire à la personne le bien, tout en combattant son âme afin de faire face à ce qui est détestable, et ensuite en plaçant sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, sans le moindre doute, l'effet positif est plus qu'énorme. Regardez bien ici, il ne parle pas que d'être prêt, d'être renforcé, ce qui est une cause, mais il parle ensuite de la base, tout en plaçant la confiance totale en Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Tu peux très bien t'entraîner pour porter les charges les plus lourdes, et au moment de porter cette charge à laquelle tu t'es préparé, Allah tabaraka wa ta'ala peut te décréter que ton bras se casse, que tu tombes, que tu n'arrives pas à porter cette charge. C'est un exemple, c'est une image. Pour te dire que si Allah ne t'aide pas au final, toute ta préparation ne te sera d'aucune utilité. Donc il faut certes œuvrer dans ce qui t'est profitable et pour écarter ce qui t'est nuisible, mais il faut placer sa confiance en Allah et lui demander l'aide. Subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, le serviteur atteint une récompense d'Allah en agissant ainsi. Il n'est pas seulement dans la quiétude, mais plus encore, il s'est conduit comme un croyant. Donc vous voyez bien que c'est au final une double jouissance. Il jouit de la quiétude et du repos tant recherché par ceux qui n'arrivent pas à l'atteindre, car ils n'ont pas suivi la bonne route. Et en plus de cela, il s'est conduit comme un croyant. Allah l'aime et le récompense, subhanahu wa ta'ala. Il le récompense dans ce bas monde en lui donnant l'épanouissement, la largesse de sa poitrine, la tranquillité. Et il le récompense dans l'au-delà, car il s'est conduit comme un croyant, un adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit, « Faslun, wa min a'azami l'ilajati li amradi l'qalbi l'asabiyya, bel wa aydan li amradi l'badaniyya, قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. C'est un autre chapitre. Parmi les remèdes les plus grands pour les maladies du cœur relatives aux nerfs, c'est-à-dire le stress, la nervosité, les inquiétudes, le fait d'être contrarié, soucieux, anxieux, peiné, ces choses qui rendent malade le cœur. Il nous dit, et même pour les maladies du corps, parmi les plus grands remèdes pour combattre ces maladies, la force du cœur, de faire en sorte que ce cœur ne se laisse pas déranger ou exciter ou déstabiliser par les imaginations dues aux mauvaises pensées. Souvent, la personne, son souci commence par une mauvaise pensée. Et puis, quand elle a cette mauvaise pensée, si elle ne la combat pas, elle s'imagine des choses. Il va peut-être m'arriver telle chose. Je vais peut-être rencontrer une très grande difficulté. On va me faire du mal. je vais manquer telle chose, rater telle autre chose, il va m'arriver telle chose. À cause de ces pensées, la personne est dérangée, elle est perturbée, elle est instable, elle est inquiète, elle n'est pas tranquille. Et ces imaginations sont dues aux mauvaises pensées. Et dans la joie des cœurs ou dans l'épanouissement de la poitrine, il y a une chose qui est extrêmement importante, qui a été citée par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son ouvrage intitulé « Tariq al-Hijrataini wa Bab al-Sa'adatain » « La voie des deux émigrations et la porte des deux joies ». Les deux émigrations, il s'agit de l'émigration vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cet ouvrage, il traite d'un point important que l'on appelle « Hirasatul Khawatir », la surveillance des pensées. Et nous explique que c'est extrêmement important de surveiller ce à quoi tu penses. Pourquoi ? Parce que c'est souvent, presque tout le temps, à cause de ce à quoi tu as pensé, que tu as fini par désobéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Par laisser les inquiétudes, les soucis, les peines, l'angoisse s'emparer de ton cœur pour te déranger au final et ne pas te laisser vivre tranquillement. Il faut donc surveiller nos pensées. Surveiller parce que ce sont ces pensées qui amènent ensuite des imaginations. Il va m'arriver ça, je vais avoir ça, je vais. Alors qu'il s'agit de l'avenir qui nous est inconnu au final. On finit donc par perdre du temps au sujet de quelque chose dont on n'est pas sûr du tout et que seul Allah connaît. Subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di nous dit « لِأَنَّ الْإِنسَانَ مَتَسْتَسْلَمَ لِلْخَيَالَاتِ وَانْفَعَلَ قَلْبُهُ لِلْمُؤَثِّرَاتِ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَغَيْرِهَا » Et là, ce qu'il dit va avoir un lien avec ce qui se passe en ce moment, cette maladie qui se répand. L'imam Al-Sa'di nous dit, car si l'homme se soumet à ses imaginations, il peut m'arriver telle chose, il peut ceci, cela. Si l'homme se soumet, il soumet son esprit à cela, et si son cœur se laisse affecter par la crainte de tomber malade et autres, comme c'est le cas en ce moment avec le virus qui sévit et qui se répand rapidement. Ça peut être le souci de beaucoup de monde. C'est le souci de beaucoup de monde. Dans l'islam, comment remédier à ce souci ? Ne pas se soumettre à des imaginations. Si je touche tel mur, il va m'arriver telle maladie. Si je passe devant telle personne alors qu'elle était dans telle ville, peut-être que ce ne sont que des imaginations. Ce ne sont que des imaginations, il n'y a rien de sûr dans cela. Mais ce qu'il faut, c'est placer ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans la sunna, il y a un bien immense. Peut-être qu'on en parlera plus en détail, incha'Allah. L'auteur a dit, وَمِنَ الْغَضَبِ وَالتَّشْوِيشِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُؤْلِمَةِ وَمِنْ تَوَقُعِ حُدُوثِ الْمَكَارِهِ وَزَوَالِ الْمَحَابِ. Si le cœur se laisse ainsi emporter par les imaginations et se laisse être affecté par la peur de tomber malade, par ces choses qui sont douloureuses tout simplement, ou par l'idée de perdre quelque chose que l'on aime. أَوْقَعَهُ ذَلِكَ فِي الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَمْرَاضِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ. Cela fera tomber l'homme dans les soucis, dans les préoccupations et les maladies du cœur et du corps. Parce que le cœur va avec le corps. Pour cette raison, tu vois la personne qui a beaucoup de stress, attraper telle et telle maladie physique. Le cœur va avec le corps. Le cœur a besoin d'être tranquille. De la même manière, tu vois des gens touchés d'une maladie physique et qui pourtant se sentent bien parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils sont dans la quiétude, parce qu'ils sont murtahoun, ils sont apaisés, ils sont reposés par Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être même que la maladie physique finit par ne pas rester dans ce corps. Parce que le cœur est qawi, parce que le cœur est fort. L'imam Sa'di dit, وَلِنْهِيَارِ الْعَصَبِي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. Et donc tout cela fait tomber dans le le stress et tous les effets néfastes de celui-ci que l'on a vu chez beaucoup de monde. ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. Dès lors que la personne s'en remet entièrement à Allah par son cœur, place en lui seul sa confiance et ne se laisse pas affecter et soumettre à ses imaginations mauvaises et ses pensées fausses et mauvaises, dès lors que la personne place toute sa confiance en Allah et espère la grâce auprès de lui, se dissipent automatiquement tous les soucis, toutes les peines. Toutes les maladies, beaucoup de maladies du cœur et du corps. Ça revient à ce que je vous ai dit. Dès que la personne est forte dans son cœur, eh bien, il est fort possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse son corps. Pour te montrer, cher musulman, que le cœur a une place extrêmement importante. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, « Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabu ilallahi min al-mu'mini al-da'if wa fi kullin khayr. » Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien que les deux aient du bien en eux. Celui qui est plus fort est meilleur chez Allah. Et la force dont on parle ici est dans plusieurs catégories. Il y a certes la force physique, mais la force la plus importante, c'est la force du cœur. Parce que la vraie force, pour le croyant, c'est la force de son cœur. C'est pour ça que tu vois une personne qui n'est pas forcément corpulente, qui n'est pas forcément forte physiquement, qui peut-être est malade, mais qui arrive pourtant à prier ses 5 salats à l'heure. Et tu vois à côté une personne en bonne santé, peut-être même que cette dernière pratique du sport, comme de la musculation ou autre, et ne pas réussir à se lever pour la prière du Fajr. Cela te montre que la force, c'est la force du qalb, c'est la force du cœur. Et je vous donne un exemple, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, et que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu prit le succéda dans la dirigeance des musulmans, il donna aussitôt l'ordre à l'armée qui avait été préparée par le prophète alayhi salatu wassalam avant sa mort de partir. Mais certains compagnons ont été voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et lui ont dit, le commandant désigné dans ce groupe est beaucoup plus jeune que les autres. En effet, il avait 17 ans, entre 16 ans et 17 ans. Et il y avait derrière lui Kibar al-Sahaba, parmi les plus grands des compagnons, parmi lesquels Abdurrahman ibn Aouf, un grand sahabi, qui fait partie des 10 promis au paradis d'ailleurs. Et donc, ils ont été voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et lui ont dit, il faut que tu arrives à convaincre Abu Bakr de désigner un autre que ce jeune qui est Usama ibn Zayd ibn al-Haritha radiyallahu anhu. Et vous savez que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était décrit physiquement. On disait qu'il avait une corpulence telle qu'on avait l'impression quand on le voyait de loin qu'il était sur un cheval, alors qu'il n'était que debout. Et quand on parlait de la corpulence de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, on disait qu'il était tout le temps amené à tirer son pantalon, car en raison de sa minceur, il tombait, alors il le tirait. Et pourtant, quand il s'agissait de prendre position dans une situation délicate, on ne parle plus de la minceur. Que s'est-il passé? Ils ont été voir Omar, qu'Allah l'agré. Omar a été voir Abu Bakr, radiallahu anhu, pour essayer de négocier avec lui et lui demander de désigner autre que ce jeune qui était Usama, qu'Allah l'agré, pourtant désigné par le prophète, alayhi salam, même avant sa mort, et confirmé par la suite par Abu Bakr, qui succéda dans la gouvernance. J'ai dit la dirigeance, je voulais dire la gouvernance. Personne ne me corrige. Allah yadikum. Et donc, que s'est-il passé lorsque Omar s'approcha de Abu Bakr? Abu Bakr dit à Omar, approche-toi. Il s'approcha de lui, puis il le prit par la barbe fortement, le tira par lui et lui dit, Thakilatka ummuk, que ta mère te perde. Et quand il disait ça autrefois, ce sont des paroles lourdes dont il ne visait pas la réalité du sens. Ce qu'il voulait était uniquement attirer l'intention sur un sujet extrêmement important. Que ta mère te perde, vais-je désigner un commandant autre que celui qui fut désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par Allah, c'est lui que je désigne. Puis, Omar a négocié avec lui aussi pour ne pas partir maintenant, car le prophète venait de mourir, alayhi salatu wassalam, et il fallait, d'après Omar, qu'Allah l'agré, attendre un peu, parce que, c'est-à-dire de peur que ceux qui ont apostasié après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, finissent par se dire, il n'y a plus personne à Médine, on va attaquer les gens restants, etc. Abu Bakr a dit, même si les chiens mordaient les épouses du prophète alayhi salam, wallahi, je l'envoie. À ce moment-là, maintenant, je l'envoie. Pourquoi? Parce que c'est un ordre du prophète alayhi salam. Il l'a envoyé. Ils sont allés là où ils devaient aller. Que s'est-il passé? Tout ce monde-là, qui était à Médine, parmi les hypocrites, ou ceux qui voulaient, les gens qui ont songé à apostasier, ne l'ont pas fait finalement. Car ils se sont dit, si Abu Bakr, malgré la situation délicate que nous vivons, a envoyé ces hommes, c'est qu'il en reste beaucoup ici. Alors il vaut mieux qu'on... Vous avez compris. On se calme. Et subhanallah, Usama est allé, le but a été atteint, ils sont revenus avec ce qu'ils devaient revenir. Tout ça pour te dire, ici il ne s'agissait pas de force physique, il s'agissait de la force du qalb. Et donc quand le cœur est fort, vous pouvez un peu retrouver cela, notamment dans Al-Bidayatu al-Nihaya, le début et la fin, c'est un livre d'histoire écrit par l'imam Ibn Kathir, qu'Allah l'agré. Et donc, cela nous montre que la force du cœur agit sur le corps. Et quand le cœur est fort, eh bien, la personne, bi-idhnillah, par Allah subhanahu wa ta'ala, reste inébranlable. Et le bonheur que vit la personne, on ne peut même pas l'exprimer, nous dit l'imam Si'adi, rahimahullah. فَكَمْ مُلِئَتْ الْمُسْتَشْفَيَاتُ مِنْ مَرْضَ الْأَوْهَامِ وَالْخَيَالَاتِ الْفَاسِدَةِ وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. Combien les hôpitaux ont été remplis de malades atteints par ces imaginations. En réalité, tu te dis qu'ils n'ont rien. Ils se sont laissés aller dans les pensées qui les ont conduits aux imaginations, et alors ils ont fini par malheureusement, être affaibli par cela, physiquement, et dans leur tête aussi, psychiquement. Et combien ces pensées et ces imaginations ont atteint les cœurs de gens qui sont physiquement forts? Que dire alors des gens qui sont faibles physiquement, s'ils sont atteints aussi de cela? Elles ont peut-être rendu parfois les gens fous et leur ont fait perdre la raison. Et regardez ce qu'il dit. وَالْمُعَافَ مَنْ عَافَهُ اللَّهُ. Et celui qui est préservé est celui à qui Allah a accordé le salut. Donc tout ça pour te dire encore une fois que tout est rattaché à Allah. Azza wa Jal. Parfois les gens se laissent aller dans le wasawis, par exemple, les insufflations de shaitan, dans un tas de domaines. On a pu voir un très grand nombre de gens atteints des wasawis dans différents domaines. Fi bab al-aqida, dans le domaine de la croyance, ils doutent au sujet du qadr, du destin, au sujet d'Allah Azza wa Jal, de ses noms, de ses attributs, ou d'autres choses en relation avec ce qui nous est invisible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas combattu ces pensées qui sont arrivées et ont traversé leur esprit. Elles se sont transformées en imagination et elles les ont perturbées pour les conduire à ce vers quoi Iblis veut les conduire. Parce que tout cela ne vient que de Shaitan, en réalité. Également, combien de gens, à cause de ces mauvaises pensées, habitent ou résident dans les hôpitaux? On ne trouve aucune solution pour eux. La solution est le retour à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et la confiance en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nous sommes croyants bifadlillah. C'est grâce à Allah et pas grâce à nous. Nous sommes musulmans grâce à Allah Azza wa Jal. Nous avons un Rabb, un Khaliq, un Raziq, un Mudabbir, un Shafi. Nous avons un Créateur. Nous avons celui qui octroie la subsistance. Nous avons celui qui guérit. Nous avons celui qui entend et répond à l'invocation. Indak Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois aujourd'hui des gens qui, pour dissiper leurs soucis, leurs angoisses, vont ici et là acheter des livres traitant du domaine de la psychologie et les lire les uns après les autres. Puis, ils cherchent la quiétude et le repos à travers des fréquentations, ou alors des occupations, ou alors la vente et l'achat, ou encore la nourriture, les voyages, et j'en passe. عندك رب العالمين. Tu as Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Certains disent, j'ai pourtant invoqué, mais Allah ne m'a pas répondu. Il est possible qu'il ne réponde pas. S'il ne répond pas, ce n'est pas parce que l'invocation est inefficace, elle est efficace. C'est souvent parce qu'en réalité, nous faisons quelque chose de mal qui vient empêcher l'exaucement de nos invocations. Comme la personne atteinte d'une migraine, d'une maladie physique, elle prend le médicament qui est connu pour être un médicament efficace, mais à côté, elle consomme un produit qui est une contre-indication, comme le disent les médecins. Eh bien, quand elle consomme ce produit, ce médicament qui est efficace ne l'est plus. Pas parce qu'en lui-même il n'est pas efficace, parce que l'on a un élément extérieur qui est venu perturber cela. Il en est de même dans le domaine de l'invocation d'Allah. Et je vous invite à méditer les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans ce sujet, bien précisément dans l'introduction de son ouvrage intitulé « Ad-da'u ad-dawa », la maladie et son remède, en réponse à une personne désespérée qui est venue voir l'imam et lui a demandé « Que dois-je faire maintenant ?» L'imam Ibn al-Qayyim lui a répondu dans ce livre « La maladie et le remède ». Il a été traduit avec le titre « Péché et guérison » notamment. Tayyib. Et l'imam Sa'di rahimahullah nous dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah le suffit. فَالْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ قَوِيُّ الْقَلْبِ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ الْأَوْهَامِ ولا تزعجه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس. Celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal est fort de cœur. Les imaginations ne viennent pas à l'affecter ni le déranger, car il sait que cela est dû à une faiblesse de l'âme, une faiblesse de sa personnalité. Et le croyant, il doit renforcer sa personnalité. Comment est-ce qu'il renforce son cœur d'ailleurs? Comment est-ce qu'il fait en sorte que son cœur devient fort? Ne voyez-vous pas que les gens essaient d'y arriver sans y parvenir? Très souvent, c'est parce que le seul moyen de renforcer ton qalb, le seul moyen de renforcer ton cœur, c'est d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal. C'est de remplir ton cœur d'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la connaissance d'Allah. Et cela se fait en étudiant sa religion, notamment en lisant et méditant son livre, en comprenant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ton cœur se remplit d'amour pour lui, il se détache de tout autre que lui, il ne prête attention à personne d'autre que lui. Résultat, il est inébranlable, il est fort, il est invaincu. L'imam al-Sa'di nous dit « وَمِنَ الْخَوَرِ وَالْخَوْفَ الَّذِي لَا حَقِيقَةَ لَهُ » Celui qui place sa confiance en Allah sait que ses imaginations font partie de ce qui est appelé la lâcheté ou la peur qui n'est pas basée sur quelque chose de réel, de concret. وَيَعْلَمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ بِالْكِفَاتِ التَّامَّ Il sait aussi que si il place sa confiance en Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une suffisance totale. Il le suffira. فَيَثِقُ بِاللَّهِ وَيَطْمَئِنُّ لِوَعْدِهِ فَيَزُولُ هَمُهُ وَقَلَقُهُ Il s'en remet à Allah, il est dans la quiétude face à sa promesse, ses soucis, ses préoccupations disparaissent alors. وَيَتَبَدَّلُ عُسْرُهُ يُسْرًا وَتَرَحُهُ فَرَحًا Sa difficulté devient une facilité, sa tristesse une joie. وَخَوْفُهُ أَمْنًا Sa peur, une sécurité. فَنَسْأَلُهُ تَعَالَ الْعَافِيَةِ Nous lui demandons de nous accorder le salut. Amin. وَأَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِقُوَّةِ الْقَلْبِ وَثَبَاتِهِ بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه ودفع كل مكروه وضير. Nous lui demandons donc de nous honorer par la force des cœurs et la fermeté dans la confiance en lui, celle qui amène tout bien repousse tout mal. Il dit ensuite Faslun wa fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فائدتان عظيمتان. Autre partie de l'ouvrage concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste en elle un comportement, il sera satisfait en elle d'un autre. Ce récit, bien qu'il parle ici de la relation conjugale de l'homme avec son épouse, dans son sens est tout à fait applicable dans toute relation entre deux personnes. Deux personnes qui ont un lien, il y aura forcément des souillures dans la pureté de leur lien, par des mauvais comportements que l'un peut manifester envers l'autre. À ce moment-là, il y a deux intérêts à prendre de ce récit. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste en elle un comportement, il en agréera forcément un autre. Le premier enseignement tiré de ce récit prophétique est le suivant. إِحْدَاهُمَا الْإِرْشَادُ إِلَى مُعَامَلَةِ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ وَالصَّاحِبِ وَالْعَامِلِ وَكُلِّ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاقَةٌ وَاتِّصَالٌ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُوَطِّنَ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ أَمْرٌ تَكْرَهُهُ فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ فَقَارِنْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَوْ يَنْبَغِي لَكَ مِنْ قُوَّةِ الْاتِّصَالِ وَالْإِبْقَاءِ عَلَى الْمَحَبَّةِ بِتَذَكُّرِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَحَاسِنِ وَالْمَقَاصِدِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. La première chose tirée de ce récit, le prophète alayhi salat wa salam nous oriente dans la conduite à avoir, le comportement à adopter envers l'épouse, mais aussi le proche, l'ami, le collègue, tout simplement, c'est-à-dire toute personne avec laquelle tu as une relation. Tu te dois de dresser ton âme, de t'éduquer sur le fait que il y aura forcément une défaillance chez la personne que tu fréquentes, avec qui tu entretiens des liens. Il y a forcément un défaut de sa part, quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Dès lors que tu remarques cette chose que tu n'apprécies pas chez cette personne avec qui tu as des liens, compare cela avec les biens que cette personne a. Et fais en sorte de t'acquitter de ton devoir ou de faire ce que tu dois faire pour préserver ton lien avec cette personne en te souvenant toutes les bonnes choses que cette personne a pu te faire ou a pu faire dans son comportement. Car certes, la personne qui a des erreurs n'a pas que des erreurs. D'ailleurs, qui n'a pas d'erreur? Celui qui n'a pas d'erreur lève sa main. Voilà la réponse. Personne n'a pas d'erreur. Quand tu vis avec quelqu'un, quand tu entretiens un lien, quand tu as une fréquentation, tu vas forcément voir quelque chose qui te déplaît. Que doit-on faire à ce moment-là? Arrêter de fréquenter immédiatement? Sans chercher à voir si c'est quelque chose que l'on peut résoudre? Ou alors se dire, en réalité, cette personne a beaucoup de biens. Ici, on parle de la relation entre l'époux et l'épouse dans le récit, mais en réalité, c'est plus large. C'est dans toute relation que ce récit est valable aussi. C'est pour ça que l'imam Saadi le cite ici. Deuxième chose que l'on peut retirer de ce récit prophétique, Al-Fa'idatu Thaniya, وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليهما أو عليها. Deuxième enseignement tiré de ce récit. Il faut dissiper ces soucis, nettoyer cette souillure dans ton lien que tu as avec la personne, comment? En t'acquittant de tes devoirs envers elle et en faisant ce qui t'est recommandé de faire. Quand tu as un lien avec quelqu'un, très souvent les époux, mais en réalité toute autre personne. Mais on prend l'exemple des époux. La personne se dit, elle m'a fait telle chose, ou il m'a fait telle chose. Puisqu'il m'a fait telle chose, moi je vais faire telle chose. Puisque lui a fait une erreur avec moi, un péché, moi je vais lui répondre par un péché. Non, la meilleure chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est répondre avec un bien, pas avec une désobéissance. Abu Ad-Darda ou Abu Dharr, j'hésite entre les deux, radiyallahu anhuma, a dit cette parole. إِنَّكَ لَنْ تَغْلِبَ أَحَدًا عَسَى اللَّهَ فِيكَ بِأَعْظَمَ مِنْ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ. Tu ne parviendras pas à vaincre quelqu'un qui a désobéi à Allah dans sa conduite envers toi par quelque chose de meilleur qu'obéir à Allah dans ta conduite envers lui. Allahu Akbar. Kalam salaf, kalam mubarak. Les paroles des salaf, ce sont des paroles, je ne peux même pas dire en or. L'or n'a aucune valeur devant la kalam de ceux qui ont été éduqués par le prophète alayhi salatu wa salam. Tu ne parviendras pas à vaincre quelqu'un ayant désobéi à Allah dans son comportement envers toi avec quelque chose de meilleur que obéir à Allah dans ton comportement envers lui. Allahu Akbar. Et donc tout cela, c'est basé sur tous ces enseignements. Il y a des personnes qui ne prennent pas ces enseignements-là. À ce moment-là, si elles ne suivent pas la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, et ne font qu'observer les tares de la personne, les défauts, et être aveuglés, inattentifs aux efforts, aux bonnes choses faites par la personne, elle sera forcément et inévitablement dans l'inquiétude. Et alors, la pureté de la relation qui les lie va être souillée. Et l'amour va être souillé. Pour cela, tu entends dans les couples, au bout de certaines années, certains disent « je n'ai plus de sentiments, je n'arrive plus à l'aimer ». Ça peut être l'homme qui dit ça, ça peut être la femme. Il y avait moyen de combattre ce chemin qui a mené à ce résultat-là. C'est l'application de la sunna du prophète alayhi wassalam dans les liens qui unissent les gens. D'ailleurs, un message à ceux qui disent « je n'ai plus de sentiments » pour lui, si c'est une femme, ou pour elle, si c'est un homme. Allah tabaraka wa ta'ala fait revivre la terre morte. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il voit la terre morte, il suffit d'envoyer la pluie et alors ça devient une terre verdoyante. Elle donne même des fruits, peut-être, de la nourriture. Allah tabaraka wa ta'ala va faire revivre yawm al-qiyamah les os, les squelettes qui ont disparu en poussière. Allah tabaraka wa ta'ala yuhyi wa yumit. Il fait revivre et il donne la mort. Demande à Allah azza wa jal, surtout quand beaucoup d'années sont passées et que des efforts ont été faits, pourquoi mettre un terme à une relation à laquelle il était finalement possible de remédier? Surtout quand il s'agit de quelque chose qui est tant aimé par Shaitan, le divorce, qu'Allah nous en préserve et préserve les musulmans. Ce n'est pas une sage décision que de s'empresser à cette solution-là. Certes, c'est permis quand toutes les étapes ont été franchies, sans pour autant atteindre de résultats, mais il faut d'abord faire tout ce genre d'efforts. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et guide les musulmans. Ensuite, il dit « وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ذَوِ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ يُوَطِّنُونَ أَنفُسَهُمْ عِنْدَ وُقُوعِ الْكَوَارِثِ وَالْمُزْعِجَاتِ عَلَى الصَّبْرِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَلَكِنْ عِنْدَ الْأُمُورِ التَّافِهَةِ الْبَسِيطَةِ يَقْلَقُونَ وَيَتَكَدَّرُ الصَّفَاءَ وَالسَّبَبُ فِي هَذَا أَنَّهُمْ وَطَّنُوا نُفُوسَهُمْ عِنْدَ الْأُمُورِ الْكِبَارِ وَتَرَكُوهَا عِنْدَ الْأُمُورِ الصِّغَارِ فَضَرَّتْهُمْ وَأَثَّرَتْ فِي رَاحَتِهِمْ فَالْحَازِمُ يُوَطِّنُ نَفْسَهُ عَلَى الْأُمُورِ الْقَلِيلَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الْإِعَانَةَ عَلَيْهَا وَأَلَّا يَكِيلَهُ إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الصَّغِيرُ كَمَا سَهُلَ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ وَيَبْقَى مُطْمَئِنَّ النَّفْسِ سَاكِنَ الْقَلْبِ مُسْتَرِيحًا. Beaucoup de gens, nous dit l'imam al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi ceux qui ont des motivations hautes, ont su dresser leur personne pour affronter les catastrophes dérangeantes et y faire face avec l'endurance et la quiétude. Mais lorsque des choses futiles, n'ayant pas la moindre valeur, leur arrivent, ils sont complètement dérangés. Ils sont inquiets. Ils sont perturbés. Leur pureté de leur fort intérieur se voit souillée. La cause est que ces gens-là n'ont dressé leur âme que pour les grosses choses et ont délaissé les petites. Pour ça, tu vois, la personne arrive parfois à patienter sur des choses énormes, mais une petite parole et c'est la terre qui tremble. Et ce sont tous ses cheveux qui bougent dans tous les sens. Pourquoi ? Elle est inattentive. On doit se préparer à tout et on doit se dresser à à l'endurance. Ainsi, celui qui est ferme dans sa volonté éduque son âme à recevoir le petit ou le grand, c'est-à-dire les petites choses ou les grandes, et demande l'aide d'Allah Azza wa Jal de ne pas le laisser un instant s'en remettre à lui-même. C'est très important. Et là, on voit l'erreur de la personne, de la parole que beaucoup de gens disent. Ils disent, il n'a pas assez confiance en lui. Il doit avoir plus de confiance en lui. Athiqatu bin nafs. Cette parole est une erreur. Pourquoi ? Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans son invocation qu'il prononçait chaque matin et chaque soir, « Ya hayu ya qayyum, bi rahmatika astaghith. » Oh Allah, toi dont la vie est parfaite, toi qui subsistes par lui-même et par lequel tout subsiste, j'en appelle à ta miséricorde. Aslih li sha'ni kulla, je t'implore de réformer toute ma situation. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, et ne me laisse pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Tu ouvres, tu fermes et tu ouvres. Idha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hadha fa kayfa naqulu nahnu athiqatu bin nafs. Si le prophète alayhi salatu wa sallam dit à Allah azza wa jalla, ne me laisse pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, comment peut-on dire confiance en moi, confiance en soi? Il n'y a pas de confiance en moi ni de confiance en soi. Il y a la confiance en Allah et il y a le fait de s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah dit, nous approchons la fin de l'écrit, « Faslun al-aqilu ya'lamu anna hayatahu s-sahiha » حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكتار فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكتار ولا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. C'est le dernier chapitre de son ouvrage. Il nous dit, l'individu doué de raison sait très bien que sa véritable vie est la vie de la joie et de la quiétude, et que cette vie est courte. Il ne convient donc pas de passer son temps, ce court moment de sa vie, plongé dans tout ce qui lui amène les inquiétudes. Car c'est le contraire de la bonne vie. Le croyant doit être avare de son temps, dans le sens où il n'accepte pas de donner de son temps à ses soucis, à ses inquiétudes. C'est pour ça que les gens disent « la vie est courte » et en cela, ils ont raison. Mais après, dans ce qu'ils font, ils n'ont pas raison. C'est pour ça que l'imam Sa'di rahimahullah va dire « dans cela, le pieux et le mauvais s'associent, mais le croyant a la plus grande part de ce bien. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que lui, il agit en fonction de sa foi. La vie est courte, ton temps est court, ta journée est courte. Est-ce qu'il est bon pour un doué de raison de passer toute sa journée à penser à ce qu'un tel lui a fait? Il a besoin de cette journée. Et le fait de passer cette journée à penser à ce qu'un tel ou un tel lui a fait, ou veut lui faire, ou d'autres choses encore, ça souille le bonheur dont elle a besoin pour cette journée. Et donc, ça l'empêche de concrétiser au final le but de son existence. L'adoration d'Allah qui se fait avec quiétude, avec recueillement. Elle entre dans la prière, elle n'est plus concentrée. Certains commencent comme cela. Ils se laissent aller dans leurs pensées, elles se transforment en imagination, elles perdent leur temps, elles n'ont plus de concentration, elles n'ont plus de concentration ni de recueillement dans leurs prières. Elles sont en train d'invoquer Allah, mais le cœur n'est pas là. Et cette invocation n'est pas acceptée par Allah, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, le cœur qui est distrait. Quand la personne invoque Allah avec un cœur distrait, Allah n'exauce pas, subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith authentique. Et donc, elle se laisse aller. Et qu'est-ce qu'il advient de cette personne? Elle commence par délaisser adhkar al-sabah wa al-masa, si elle les fait. Les invocations du matin et du soir, extrêmement importantes, qu'il ne faut lâcher pour rien au monde. Nas'alullah al-thabat wa al-tawfiq. Nous demandons Allah de nous accorder l'assistance et la fermeté dans cela. Elle commence par les délaisser. Ensuite, elle délaisse les actions recommandées qu'elle avait l'habitude de faire. Puis elle en vient aux actions obligatoires. Au début, elle les fait en retard. Ensuite, elle les fait un peu plus en retard, moins concentrée, beaucoup moins, beaucoup moins. Elle les rattrape le soir, elle se laisse aller. Tout son temps, elle le donne à ses soucis. Ya subhanallah, indak Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es Allah azza wa jal. Tu es en train de délaisser Allah, par Allah. Tous les soucis qui t'arrivent et que tu rencontres ne sont rien devant le souci dans lequel tu es en train de te plonger en t'éloignant d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et certainement, tu es distrait de cela. Tu te dis, j'ai trop de soucis. Alors que ta vie est courte, de toute façon, tu vas quitter cette vie d'ici-bas. Tu vas rencontrer Allah, Azza wa Jal. Ne donne pas trop de temps à ces soucis. Essaie de les gérer, d'y remédier, de les résoudre autant que possible et passe à autre chose. Mets ton temps dans ce qui t'est utile et dis-toi que tu vas bientôt mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et on ne te voit pas être dans cet état quand tu as raté la prière à l'heure, quand tu as manqué à ton devoir d'aller accomplir le pèlerinage, quand tu as manqué à ton devoir de t'acquitter de l'aumône. C'est qu'en réalité, dans ton cœur, il y a une maladie qui est bien plus destructrice que tous ces soucis qui te perturbent. C'est que tu es peut-être attaché à la dunya. Et quand on aime la dunya, on lui donne beaucoup d'importance. Si bien que dès qu'un petit problème de la dunya nous atteint, on le voit comme la plus grande des calamités. On est complètement paniqué, désemparé, déstabilisé, triste, peiné, anxieux. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment gérer les choses. Est-ce que ça vaut pour un croyant de passer sa vie comme cela et de s'éloigner d'Allah au final? Subhanahu wa ta'ala. Tu es Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as le meilleur des remèdes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne l'invocation d'Allah même dans les moments de tristesse. Tu reviens au tawhid. Tu reviens à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as des problèmes. Tu as des soucis. Tu as des tristesses. Indak Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as Allah. Les gens peuvent t'aider, ne pas t'aider, te donner, ne pas te donner. Et Allah est parfaitement riche. Il n'a besoin de personne, et toi, tu as besoin de lui. Et le prophète, alayhi wassalam, nous enseigne de s'accrocher, s'attacher à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il convient également, nous dit l'imam, rahimahullah, lorsque la personne est atteinte de quelque chose qui la déplaît, quelque chose qu'elle redoute, quelque chose de qui est douloureux pour elle, qui est difficile à affronter, de faire la comparaison entre le bien qu'elle n'a pas eu ou le mal qu'il a atteint et tout le khair qu'Allah lui a donné. Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas donné une santé totale? Regarde tout le bien qu'il t'a donné à côté. Il t'a donné أولاً نعمة الإسلام والإيمان. Incomparable ce bienfait. Le bienfait de la foi, le bienfait de l'islam. Il t'a choisi dans ce milieu où beaucoup de gens sont égarés. Il t'a fait savoir des choses le concernant. Il t'a donné des biens que d'autres n'ont pas. Il t'a donné des gens autour de toi qui t'aiment et qui t'aident que beaucoup d'autres gens ne trouvent pas et aimeraient tant trouver. tu trouveras toujours qu'au final, tu es comblé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça te chassera le souci de cette chose que tu as perdue face à toutes ces choses que tu as eues. Il nous dit ensuite, وَكَذَلِكَ يُقَارِنُ بَيْنَمَا يَخَافُهُ مِنْ حُدُوثِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْاحْتِمَالَاتِ الْكَثِيرَةِ فِي السَّلَامَةِ مِنْهَا فَلَا يَدَعُ الْاحْتِمَالَ الضَّعِيفِ يَغْلِبُ الْاحْتِمَالَاتِ الْكَثِيرَةَ الْقَوِيَّةِ وَبِذَلِكَ يَزُولُ هَمُّهُ وَهَمُّهُ ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي دفع ما وقع أو تخفيفه. Il nous dit aussi que le serviteur, dans ces situations douloureuses, doit faire face entre doit faire la comparaison entre le mal qui l'atteint et toutes les éventualités possibles pour faire face à ce dernier, pour le chasser. Elle ne doit pas se laisser faire par le mal qu'il a atteint sans regarder tout ce qu'il est possible de faire pour dissiper ce mal. Et ainsi, elle se dresse et elle affronte. Ça, c'est le résumé de ce qu'il a dit. وَمِنَ الْأُمُورِ النَّافِعَةِ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ أَذِيَةَ النَّاسِ لَكْ وَخُصُوصًا الْأَقْوَالَ السَّيِّئَةَ لَا تَضُرُّكْ بَلْ تَضُرُّهُمْ إِلَّا إِنْ أَشْغَلْتَ نَفْسَكَ فِي الْإِهْتِمَامِ بِهَا وَسَوَّغْتَ لَهَا أَنْ تَمْلِكَ مَشَاعِرَكْ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَضُرُّكَ كَمَا تَضُرُّهُمْ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تُسْغِ لَهَا بَالًا لَمْ تَضُرَّكَ شَيْئًا. Ce qu'il dit ici est vraiment très important dans les nuisances que les gens te font. Fait partie des choses très utiles, nous dit-il, de savoir que les nuisances que les gens te font, en réalité, elles ne te nuisent en rien du tout. Surtout les nuisances verbales. Ils disent de toi. Ils disent que tu es un menteur, tu sais que tu es un véridique. Ils disent que tu as trahi alors que tu es honnête. Ils disent que tu es mauvais alors que tu ne l'es pas. Le fait de parler, de te dénigrer, parler en mal sur toi. Comme la personne qui s'attache à sa religion, elle tient son dîn parce qu'elle sait que c'est pour Allah Azza wa Jal. Elle sait que ce qu'elle fait a été cité par Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran. Et par le prophète alayhi salatu wassalam dans la sunna. Puis on dit d'elle, il est arriéré, il n'a rien compris, il n'est pas comme tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme nous? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas ceci, ceci, cela? À ce moment-là, comment la personne doit réagir? Eh bien, elle doit savoir que ces paroles en réalité ne font que nuire à ces gens-là. Omar al-Hassan al-Basri, pardon, rahimahullah, a entendu que quelqu'un a parlé sur lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un plateau de dattes et il est parti l'offrir à la personne. La personne lui dit, pourquoi tu me fais ça? Il a dit, je te remercie parce que tu m'as offert tes hasanat et yawm al-qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parce que quand tu fais de l'injustice à quelqu'un, ça se règle yawm al-qiyamah par les hasanat. Tu lui donnes tes hasanat, qu'Allah nous en préserve. Ya Rab, Allahumma arhamna wa ghfir lana. Donc, regardez comment il a réagi. Il n'a pas été déstabilisé. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a deux catégories de personnes dont je veux vous parler. C'est extrêmement important. La personne qui subit les nuisances et sa façon de réagir. La personne qui réagit mal. Mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Mais tu n'es pas au courant de ce qu'elle a dit. Elle a dit telle chose, il m'a dit telle chose. Et tu vois qu'elle est vraiment, vraiment déstabilisée. Elle n'arrive plus à dormir. Elle n'est plus concentrée. Elle n'est plus recueillie. Elle n'est plus stable. Mais subhanallah, elle ne te nuit en rien. Elle ne te nuit en rien. Elle ne te fait rien. Sa parole, elle ne te change rien de ta vie. Elle ne te change rien de ta santé. Elle ne te change rien de ton rizq, ta subsistance. Elle ne te change rien de quand est-ce que tu vas mourir. Elle ne te change rien du tout. C'est comme ça que tu dois le voir. Tu ne dois pas accorder d'importance à ces paroles-là. on a parlé sur ton prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a fait un partage, alayhi salatu wassalam, entre les sahaba. Un homme est venu et a dit, « Inna hadhi al-qisma, ma urida biha wajhullah. » Allahu Akbar. Ce partage-là n'a pas été fait pour Allah. De qui il parle? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Son visage est devenu tout rouge. Il s'est arrêté là. Il a dit, « Rahim Allahu akhi Moussa. » Qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Il a été éprouvé par bien plus que cela et il a patienté. Quand tu réagis comme ça, même si sur le moment, sur l'instant, ça peut te faire quelque chose, cette chose-là, elle ne reste pas plus longtemps que ça. Elle disparaît, tu es murtah. Et c'est lui, après, qui va être mal. C'est cette personne-là qui va être mal. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui font les radios. La radio, elle entend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propage. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend quelque chose. Au lieu de dire, ittaqillah, la taqul hadha al-kalam, crains Allah, ne dis pas ces paroles. Même si ce sont des vraies paroles, pourquoi est-ce que tu dis cela? Aimerais-tu être, toi, concerné? Aimerais-tu que des gens soit en train de parler de toi de cette façon à ce moment-là? Non. Pourquoi tu le fais avec autre? Donc, elle ne fait pas ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aussitôt voir la personne. Elle dit, Subhanallah, j'ai entendu telle personne qui a dit telle chose sur toi. C'est inadmissible. Non, faut pas te laisser faire. Il faut. Anta shaytan fil ard. Tu es un shaytan dans la terre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Le cheikh du cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Un homme vient le voir et lui dit, « Ya cheikh, fulan, qala fika kada wa kada. » Au cheikh, quelqu'un a dit sur toi telle et telle chose. Vous savez ce qu'il lui dit? Subhanallah. Ma wajada shaytan ou ghayrak li hadha? Il lui répond, « Le diable n'a trouvé personne d'autre que toi pour me rapporter ça? » Al-Sheikh ibn Baz, rahimahullah. Quelqu'un vient le voir et lui dit, « Ya Cheikh, un tel a dit telle et telle chose sur toi. » Vous savez ce qu'il lui répond, Cheikh? « Udhkurillah, istaghfir. » Fais du dhikr. Perds pas ton temps avec ça. Fais du dhikr. Demande le pardon d'Allah. Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, les savants de l'islam. Quelqu'un vient le voir et lui dit, « Ya Cheikh, quelqu'un a dit telle et telle chose sur toi. » Vous savez ce qu'il répond? « Subhanallah, t'as mis tout le temps pour apprendre par cœur sa parole et t'as pas appris un hadith à la place? » Al-Sheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, quelqu'un vient le voir et lui dit, « Ya Cheikh, qalou fika kada wa kada, ils ont dit sur toi telle et telle chose. » Cheikh lui dit, « Bashirhum anni usamihuhum jami'an. » Annonce-lui la bonne nouvelle que je les excuse tous. J'ai peur d'être le jour dernier la cause de l'entrée en enfer de quelqu'un si je ne lui pardonne pas. Regardez, ça c'est l'inshirah sadr. Ça c'est l'épanouissement total. C'est la quiétude. C'est la quiétude totale. On arrive à la fin. C'est la quiétude totale. Nasal Allah at-tawfiq. Sallallahu an yusliha qulubana wa yashraha sudurana. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit que si la personne donne de l'importance aux nuisances qui lui sont faites, comme les nuisances verbales, à ce moment-là, elle ne sera pas tranquille. Si elle permet à son fort intérieur de les accepter, de lui donner, de leur accorder de l'importance, à ce moment-là, elle ne pourra pas être tranquille. Là, ses paroles vont la nuire. À ce moment-là, ses paroles vont la nuire. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, nous dit ensuite, « Wa'alam anna hayataka taba'un li afkarik, fa'in kanat afkaran fima ya'udu alayka naf'uhu fi dinin au dunya, فَحَيَاتُكَ طَيِّبَ سَعِيدَ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ. » Et sache que ta vie suit tes pensées. Sache que ta vie suit tes pensées. Si tes pensées reviennent à des utilités pour ta religion ou ta vie d'ici-bas, tu mèneras une bonne vie heureuse. Si c'est le contraire, tu mèneras une vie contraire à la vie heureuse. وَمِنْ أَنْفَعِ الْأُمُورِ لِطَرْدِ الْهَمْ أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Sache que parmi les choses les plus utiles pour repousser le souci, le fait de dresser ta personne à ne demander la reconnaissance que d'Allah et ne pas attendre la reconnaissance des gens envers lesquels tu fais du bien. Même s'il s'agit de gens qui te sont proches et qui ont des droits sur toi. Quand tu fais un bien pour quelqu'un, ne le fais pas en attendant d'entendre merci, qu'il te donne quelque chose, qu'il te fasse quelque chose. Fais pour Allah. Tukrimuhu akrim lillah. Tatasaddaq tasaddaq lillah. La tantadhir al-shukr minhu. Al-shukr min Allah Azza wa Jal. N'attends pas de lui qu'il te soit reconnaissant. Na'am. Yajibu alayhi an yashkurak. Oui, il est dans le devoir d'être reconnaissant envers toi. Mais s'il ne l'est pas, tu ne l'as pas fait pour ça, toi. Donc au final, tu n'as rien perdu. Et si tu agis ainsi, tu es bien. Alors que les gens qui ne font que pour entendre merci, ils ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce que même s'ils entendent merci, ils finissent par dire « Il ne m'a pas assez remercié. » Allahu Akbar al-insan. Insan, comment il est. Et donc, quand tu le fais lillah. Al-rajul ma'a zawja. Al-walad ma'a abih wa ummi. Al-akh ma'a akhi. Al-sadiq ma'a sadiqi. Al-insan ma'a al-insan. La personne avec la personne, l'homme avec sa femme, quand il fait un bien. Pourquoi il y a tous ces problèmes de couple? Il dit, elle m'a fait telle chose. Il est impossible que maintenant, moi, je lui fasse telle et telle chose. Ou alors, elle dit, il m'a fait un mal, je ne lui fais plus de bien. Je ne mets plus assez d'épices dans la sauce. Je mets du piment à la place. Et donc, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur en réalité. Parce que toi, quand tu le fais parce qu'Allah l'aime. Tu le fais parce qu'Allah veut que tu le fasses. Regarde, Allah dans le Coran a parlé de gens qui donnent des sadaqat, des nourritures, et ils ont dit à ceux à qui ils ont donné, innama nut'imukum liwajhillah. On ne vous nourrit que pour Allah, que pour le visage d'Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura, la tu'tini malan wala shay'an. On ne veut de vous ni rétribution ni remerciement. On n'attend rien. Nahnu naf'al lillah. Nous faisons pour Allah. L'imam Sa'di dit ensuite وَيَتَأَكَّدُ هَذَا فِي مُعَامَلَةِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَمَنْ قَوِيَ اتِّصَالُكَ بِهِمْ فَمَتَى وَطَّنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِلْقَاءِ الشَّرِّ عَنْهُمْ فَقَدْ أَرَحْتَ وَاسْتَرَحْتَ. Et ça c'est de manière générale, mais ça se confirme quand il s'agit de ta relation avec l'époux ou l'épouse ou les enfants. Ce que tu fais pour eux, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Chaque fois que tu dresses ton âme à les épargner de ton mal, tu vas te reposer toi-même et tu vas reposer les gens. وَمِنْ دَوَاعِ الرَّاحَةِ أَخْذُ الْفَضَائِلِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الدَّاعِ النَّفْسِ الَّذِي يُقْلِقُكَ وَتَعُودُ عَلَى أَدْرَاجِكَ خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي وهذا من الحكمة وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة وبذلك يزيد الصفاء اللذات وتزول الأكدار اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. Ici il cite plusieurs choses, rahimahullah ta'ala, parmi lesquelles le fait de s'occuper avec ce qui est utile, de passer ton temps dans ce qui est utile et d'accorder aucune importance aux choses qui sont nuisibles, car elles te distraient de ce qui est bon. Et parmi les choses qui sont utiles aussi, le fait de faire les choses en leur temps et de ne pas tout repousser. Parce que quand tu repousses tout, tu te retrouves à avoir beaucoup de choses à faire. Et quand tu as beaucoup de choses à faire, tu n'es pas recueilli, tu n'es pas tranquille, tu n'as pas de quiétude. Donc, chaque fois que tu as une chose à faire, tu la fais à l'instant. Tu fais tout pour la faire au plus vite afin de libérer ton esprit pour les choses à faire à l'avenir. وَيَنْبَغِي أَن تَتَخَيَّرَ مِنَ الْأَعْمَالِ النَّافِعَةِ الْأَهَمَّ فَالْمُهِمْ وَمَيِّزْ بَيْنَ مَا تَمِيلُ نَفْسُكَ إِلَيْهِ وَتَشْتَدُّ رَغْبَتُكَ فِيهِ فَإِنَّ ضِدَّهُ يُحْدِثُ السَّآمَةَ وَالْمَلَلْ وَالْكَدَرْ. Il faut aussi que tu choisisses dans les choses que tu fais les choses les plus importantes. Ensuite, tu passes à celles qui le sont moins. Tu commences par ce qu'il y a de plus important pour toi. Une fois que tu as fait cette chose, tu descends dans le degré d'importance. Tu te concentres d'abord sur ce qu'il y a de plus important. Et tu choisis ce vers quoi ton âme penche quand tu veux faire même un travail dans ta vie. Tu choisis ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu choisis ce dans quoi tu es épanoui, ce dans quoi tu es tranquillisé. واستعين على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة. Et prends de l'aide avec la demande de conseil. Consulte les gens. Consulte les gens. فما ندم من استشار وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا. Quiconque demande et consulte quelqu'un ne regrette pas. Tu ne regrettes pas, ne te précipite pas. Consulte, demande conseil aux croyants qui connaît ce domaine dans lequel tu t'engages. Étudie ce domaine dans lequel tu veux t'engager afin de savoir ce que tu vas faire. Ne te jette pas dans un domaine sans comprendre, sans savoir ce que tu vas faire. فَإِذَا تَحَقَّقْتَ الْمَصْلَحَةَ وَعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Et si alors tu es sûr de l'intérêt de cette chose et que tu prends décision, place ta confiance en Allah. Allah aime les gens qui placent en lui leur confiance. تمت هذه الرسالة والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. رحم الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة واسعة. Qu'Allah fasse miséricorde au Cheikh, l'auteur de cet ouvrage bénéfique. الحقيقة هذه الرسالة ينبغي لكل مسلم أن يقرأها وأن يقرأها يتمعن ويتفهمها ويقرأها على أهله وأولاده وأصحابه. Il convient à tout musulman de lire cet écrit de l'imam Sa'di, de le lire, de le méditer, de l'offrir, de le lire en famille, de le lire à sa femme, à son épouse, à ses enfants, de le lire, de se le prêter, de se l'offrir. Parce que, comme l'ont dit certains étudiants de l'imam Sa'di, هذا الكتاب يصح أن يسمى مستشفى الأمراض النفسية. Ce livre-là, il est correct de le surnommer l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si c'est comme ça. نعم, l'hôpital psychiatrique. Tu veux te soigner? كل شيء موجود هنا. Tu veux te soigner, tout est là. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ هذا. ترى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك